Le nouveau Pencil représenté dans le visuel de la keynote du 7 mai prochain. Elle a été officialisée par Apple en cette fin d'après-midi de mardi. Les nouveaux iPads seront au cœur de cet Apple Event programmé un mois et trois jours avant la WWDC. On va évidemment y revenir dans un instant. L'événement de la semaine, c'est l'arrivée d'un premier magasin d'applications concurrent de l'App Store, l'Alt Store. Il a ouvert ses portes il y a 6 jours et Fabrice Neumann l'a testé pour nous. Le pire produit jamais testé, c'est sûr. Le badge à la Star Trek de Human, Leigh Pin, se serait bien passé de ses tests à l'unisson pour dire à quel point l'innovation tourne à la catastrophe. Alors que lui est-il reproché et quels enseignements en tirer? On va y revenir. Le journal de la semaine avec le bras de fer entre la Chine et les États-Unis autour de TikTok, avec plusieurs disparitions d'applis majeures sur l'App Store chinois. Dataka Lab, une start-up française spécialisée dans l'IA qui aurait été rachetée par Apple en toute discrétion. Et puis les bouchées doubles sur le M4 au détriment peut-être du Mac Mini qui pourrait ne pas sortir en version M3. Comme chaque semaine, cet épisode, on vous le doit à vous, nos donateurs sur Patreon. Une aide indispensable pour iWeek. Alors à nouveau, merci à vous tous et à vous toutes. Et pour tous les autres, si vous avez envie de nous aider, rejoignez la communauté iWeek et soutenez-nous sur patreon.com/iWeek. Et puis le bonus exclusif pour notre communauté Patreon, cette semaine, on va partager avec vous nos souvenirs de jeux vidéo. Souvenez-vous, Astéroïde, Prince of Persia, Pac-Man peut-être, nos souvenirs de vieux croutons devant nos consoles. Ce sera pour les soutiens d'iWeek sur Patreon. Pour en profiter, ne ratez pas ce bonus sur patreon.com/iWeek. Bonjour à toutes et à tous, iWeek, la semaine Apple numéro 183. Nous sommes le mardi 23 avril, il est 18h41 à Paris. Je m'appelle Benjamin Vincent et je vous présente mes deux copains du jour. À ma centre, Fabrice Neumann, parce qu'il est au centre de l'image, Fabrice, aujourd'hui. Salut Fabrice.
Salut Benjamin, salut à toutes et tous. Et donc notre capitaine est presque réveillé, tout va bien.
Voilà, je suis sur la gauche. Et sur la droite, je vous présente Gilles Dounès.
Oui, bonjour Benjamin, bonjour Fabrice.
Bonjour, bonjour Gilles.
Et oui. Auditrice.
Tu n'oublies jamais les auditrices, Gilles, je le sais. Je rappelle que tu es l'ancien rédacteur en chef de MacPlus.net, co-auteur d'iPod Backstage, le livre de référence sur l'iPod chez Duno. Et toi, Fabrice, on te retrouve toujours sur ton site.
Neumann.fr.
On commence par cette confirmation qui est tombée quelques minutes avant qu'on démarre l'enregistrement de cet épisode. Cette confirmation, c'est aussi une date, le 7 mai prochain, à partir de 16h heure française, attention, horaire inhabituel, Apple organisera un événement pour le lancement des nouveaux iPads et du Pencil. On le voit d'ailleurs, ce stylet sur le visuel de la keynote avec ce sous-titre « Let Loose ». Alors, puisqu'il y a toujours des significations, des messages dans les invitations Apple, je me tourne tout de suite vers toi, Fabrice. Toi, l'anglophone de la bande, Let Loose, comment est-ce qu'on le traduit et est-ce qu'il y a une pirouette, un clin d'œil dans Let Loose?
Alors déjà, on va dire que ça se prononce Let Loose, que Loose, ça voudrait dire perdu, et ce n'est pas le cas ici. En fait, Let Loose, ça veut dire laissez-vous aller, en gros. Donc on est, je pense, en plein dans de la créativité. Et qu'on est autour du Pencil, donc probablement avec des nouvelles fonctions du Pencil. Peut-être donc cette fonction qui est de boutons, en tout cas de vrais faux boutons par pression plutôt que par double tape, ou peut-être en plus, allez savoir, pour changer d'outil directement en appuyant quelque part sur le Pencil pour passer à la gomme ou autre chose. Et puis on verra.
Ouais. Gilles, j'imagine que comme nous, tu as vu à la fois le visuel fixe et puis l'animation qu'on voit sur Twitter beaucoup. On est clairement dans un logo, des déclinaisons du logo Apple qui sont fabriquées avec un Pencil sur un iPad.
Oui, tout à fait, c'est ce que disait Fabrice. On est dans le lâcher prise et laisser parler votre créativité. Et on va y avoir des choses de ce côté-là. Alors, comme dirait François, qu'on embrasse, je mettrai une petite pièce éventuellement sur un compagnonnage avec Adobe, je ne sais pas, on va voir.
Oui, Adobe qui propose Illustrator et Photoshop sur iPad notamment. Alors d'abord, le contenu de cette keynote, le fait qu'on voit un produit dans le visuel, c'est quand même extrêmement rare. Je crois que c'est même la première fois que ça arrive. Hein.
Ah ouais, ça je ne saurais pas dire. Je n'ai pas suffisamment de souvenirs pour ça.
On n'a jamais vu ni un Mac, ni un iPhone, ni un iPad dans un visuel de... ou une souris dans un visuel d'invitation.
Non, c'est vrai. Alors, visiblement, ça peut vouloir dire que le pencil ne va pas vraiment changer d'aspect, en tout cas. On sera oui. toujours sur une sorte de crayon blanc et qu'il n'y aura pas de surprise de ce côté-là. Et puis voilà.
Ouais. Bon, on dit pourtant qu'il y aura des évolutions techniques hein, dans ce pencil potentiellement 4. Sans doute pour favoriser justement cette créativité. Alors, on a beaucoup parlé ces derniers mois du renouvellement de la gamme iPad qui s'est fait attendre, qui devient urgentissime parce que on l'a vu à l'annonce des derniers résultats trimestriels, c'était début février si je ne me trompe pas, les ventes d'iPad dégringolent, hein, je crois qu'on était à moins 25% de mémoire. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme annonce du coup le mois prochain, dans 15 jours maintenant, lors de cette keynote du 7 mai, à votre avis, sur quoi vous pariez ?
De l'intelligence artificielle à fond dans le l'iPad Pro. Non.
Fabrice fait non, remue l'index en faisant non.
Eh ben non, je fais non, ouais. Parce que l'intelligence artificielle, c'est pour la WWDC, iOS 18 et iPadOS 18, et que ce n'est pas encore le moment pour Apple d'en parler officiellement. Et donc, on verra.
On va commencer par le matos.
Il y a le matos. Oui, mais le matos, c'est comme la fonction qui crée l'organe. Il faut quand même l'organe pour effectuer certaines fonctions. Et donc, j'insiste, il y aura du M3, vraisemblablement. Et donc, des petits cœurs de logique intelligente. Mais tu as raison.
Je comprends ton impatience, mais je pense que c'est un peu l'inverse de ce qui se passe au mois de juin, justement, où quand Apple annonce iOS 17 et 18 pour le mois de juin prochain, on va pas tout savoir d'iOS 18 parce qu'une partie des nouveautés seront liées à l'iPhone 16, en tout cas à la gamme iPhone 16. Et donc, il y aura une deuxième salve quand l'iPhone 16 arrivera.
Oui, mais il va y avoir des gros clins d'œil et Apple ne s'est pas gêné pour dire qu'il y avait du Neural Engine dans leur puce pour iPhone, qu'il y en avait également dans leur puce pour MacBook Pro. Tout ne sera pas dévoilé en mai, mais il y aura quand même des choses qui vont être mises en avant en disant « stay tuned, vous n'avez peut-être pas tout vu ».
Là où je te rejoins, Gilles, c'est que en fait, ce que tu dis me fait penser à, on va dire, au discours marketing d'Apple pour le MacBook Air. C'est sûr que le mois prochain, ils vont dire que ce sont les meilleures tablettes pour l'IA.
C'est ça.
Même si le système qui est dedans n'est pas encore fait pour ça.
Absolument.
Voilà. Et il y aura éventuellement de l'iPad Air. J'ai une pensée...
Comment ça, éventuellement, c'est très, très probable.
C'est très, très probable, mais on ne sait pas...
Il faut faire une keynote, quand même. Sinon. C'est pas avec un pencil qu'ils vont faire une keynote, Gilles, quand même.
Non, je vais vous parler de malheureux iPads qui se battent en duel avec leur Apple.
Avec un pencil, donc.
Oui, c'est ça. Mais j'ai quand même une pensée émue, un peu attristée pour l'iPad 10. Là, l'iPad d'entrée de gamme, Ellie, qu'on embrasse également, on fait la tournée là, nous donnerait certainement les dernières tendances, mais à part les Japonais qui étaient perdus dans la jungle et qu'on aurait récupéré récemment, je ne vois pas qui pourrait en acheter.
Ça dépend de ce qu'ils vont proposer avec cette nouvelle génération. Si elle arrive, ce n'est pas sûr.
Non, les derniers modèles.
Ah, le dernier, mais personne n'en veut, ça, je suis d'accord. Sauf
oui, si personne n'en veut, même avec les baisses de prix, ouais.
C'est ça.
Et j'attends qu'il renouvelle le concept, puis cette entrée de gamme qui, elle prend pas la poussière, elle est en train de se défaire, quoi, elle tombe en décrépitude.
Alors, si on essaie d'être un peu exhaustif, Fabrice, sur ce qui pourrait être annoncé donc, le 7 mai, à partir de 16h heure française, qu'est-ce qu'on met dans la boîte ?
Qu'est-ce qu'on met dans la boîte ? Alors déjà, je commencerai par ce qu'on ne met pas. C'est-à-dire qu'un un événement qui insiste, semble-t-il, sur la créativité, même si l'iPad mini est compatible avec le Pencil, je pense que ça ne sent pas bon pour un renouvellement d'iPad mini encore. Parce que ce n'est pas l'outil principal pour la créativité, pour les dessinateurs, etc. Et je pense qu'on est plutôt sur des iPad Pro, grand modèle avec un M3, comme l'a dit Gilles, éventuellement donc ces fameux écrans OLED ou mini LED. Enfin, je ne me rappelle jamais, vous m'excuserez, mais donc encore mieux qu'avant, que déjà c'était tellement formidable.
On parle d'OLED, mais on parle aussi de prix stratosphérique, n'est-ce pas ?
Voilà, c'est ça. Ouais. Donc des iPad Pro qui vont sûrement s'envoler en prix, mais pour compenser, un iPad Air, comme disait Gilles, mais potentiellement avec un écran de 12 pouces 9 aussi, comme les grands écrans d'iPad Pro aujourd'hui. Alors, moi, je ne serais pas étonné qu'il y ait un truc quand même, c'est qu'il y avait une différence entre l'iPad Air à 10 pouces 9 et l'iPad Pro 11 pouces. Et donc, moi, je ne serais pas étonné que l'iPad Air grand modèle ne soit pas 12 pouces 9, mais plutôt 12,7 ou quelque chose juste un petit peu plus petit, rien que pour faire une petite différence, pour dire que ce n'est quand même pas exactement comme le Pro. Voilà, et voilà, donc je pense que c'est plutôt ça le renouvellement qu'on va voir, donc deux nouveaux iPad Pro, peut-être deux nouveaux iPad Air, et est-ce qu'il y aurait un iPad entrée de gamme pour remplacer l'iPad 10 qui était mal né, comme on sait, j'ai comme un doute en fait.
Ouais, c'est tout ce qu'on peut espérer, en plus du Pencil qui est sur l'invitation, donc lui, on sait qu'il va être au programme. C'est plus un suspense. Mais faut pas s'attendre à plus que deux paires d'iPad, pour résumer, quoi.
Oui, c'est ce que je pense, ouais, effectivement.
Et peut-être des annonces du côté des apps, effectivement, avec des partenaires comme potentiellement Adobe sur la créativité.
Il est pas impossible que au final, il soit là, hein, l'iPad 11, avec, on sera au mois de mai, hein, un focus sur l'éducation, la créativité, etc., le Pencil, j'en sais rien, j'ai encore envie d'espérer, je suis comme vous les enfants.
Bon, en tout cas, ce sera donc le 7 mai à partir de 16h. Vous avez une idée de la raison de cet horaire inhabituel ? Ça fait 7h du matin à Cupertino. Apple nous a déjà fait le coup une fois d'un horaire très bizarre, c'est dans l'autre sens. Je crois que de mémoire, la keynote avait commencé à 23h, heure française.
Donc peut-être même plus que ça, ouais, c'est quasiment au milieu de la nuit en tout cas. On pensait que c'était pour des histoires d'annonces japonaises, que finalement ça n'a pas eu lieu du tout. Non, peut-être que c'est simplement finalement un horaire de côte est américaine, New York. J'ai pas d'idée. Oh.
Alors, on aura peut-être du nouveau du côté des apps Apple aussi pour iPad. Peut-être qu'on aura droit à une deuxième version de Final Cut, par exemple. Ou une V2, pour être plus précis, hein, de Final Cut pour iPad.
Oui.
Bah oui.
Le NAB, ça tombe quand ?
Ah, c'était la semaine dernière.
C'est raté. C'est passé.
Bon, tant pis.
Voilà. Le NAB, c'est le salon des technologies de l'image et du son qui a lieu à Las Vegas, et c'était effectivement la semaine dernière. Enfin voilà, ce qu'on pouvait dire en amuse-bouche, en apéritif sur cette keynote, donc Let Loose, j'espère que je l'ai bien dit cette fois-ci, qui sera donc diffusée depuis l'Apple Park, donc qui sera un stream, avec notamment une retransmission pour la presse européenne à Londres, mardi 7 mai après-midi. On va évidemment suivre, vous tenir au courant, et puis croiser les doigts pour que cette keynote nous fasse vibrer. Parce qu'on adore quand les keynotes nous font vibrer et peut-être nous réservent une surprise, et ça, ce sera pour Gilles spécifiquement. Voilà. On passe à l'événement de la semaine, et on peut dire que ça y est, sous la pression européenne, la première place de marché d'application est ouverte. Elle a ouvert le 17 avril dernier, il y a donc 6 jours maintenant. Son nom, c'est l'Alt Store, un magasin tiers, donc concurrent de l'App Store, hein, qui permet d'installer des applications sur son iPhone sans passer par le magasin d'Apple. Fabrice, tu as été très courageux parce que tu l'as essayé tout de suite. il y a moins d'applis sur l'App Store. Hein.
Légèrement, parce qu'il y en a deux. oui, alors courageux. Bon, alors, c'est vrai que ça, on peut se dire que peut-être que ça, c'était risqué de casser l'iPhone ou pas. En fait, pas vraiment, parce que rappelons que l'Alt Store, donc ALT comme pour alternatif, existe en fait depuis déjà longtemps. Donc son créateur Riley Testut le proposait déjà. Il fallait jailbreaker son téléphone et ou installer Xcode sur son Mac pour ensuite installer quelque chose, etc. Donc le code de ça est déjà bien stabilisé et il sait y faire. Donc il n'y avait pas tellement de risques. En revanche, bon, bah voilà, c'est la première tentative et bon, pour l'instant, il n'y a pas matière vraiment à se précipiter. Il n'y a que 2 applis. En plus, on va y revenir, mais une des 2 applis, c'est un émulateur de jeux Nintendo. Et en fait, ouais. Ça s'appelle Delta et cette appli est maintenant disponible sur l'App Store d'Apple. Alors, pas en Europe, du coup. Et on va expliquer pourquoi juste après. Mais ça devient compliqué, en fait. C'est-à-dire que pour la petite histoire, l'émulateur de jeu Delta est aussi programmé par Riley Testut, donc c'est lui qui l'a fait. Donc il fait son propre magasin d'applications et il propose cette application qui est la sienne aussi. Et il s'est engagé dans la voie de création d'une place de marché alternative, alors que Apple n'avait pas encore autorisé les émulateurs de jeux de console sur l'App Store. Il s'est engagé à le faire. Et puis, une semaine ou deux après qu'il ait annoncé son Alt Store, Apple a fait un revirement en disant « Oui, bon, finalement, les émulateurs de console, c'est OK sur l'App Store. » Donc, ils lui ont joué un petit tour de cochon. Et c'est un petit peu dommage. Pour pouvoir accéder à cet App Store alternatif.
Oui, raconte-nous comment on fait.
Comprendre que du coup, il faut d'abord installer cet App Store alternatif comme une application. Donc, on va ajouter sur l'écran d'accueil de son iPhone une icône qui sera l'icône de l'Alt Store. Qui ensuite,
alors, qu'on récupère sur l'App Store ou sur le site
non.
de l'Alt Store
Non, on le récupère. Donc, on va sur altstore.io depuis son iPhone. Et quand on est dans l'Union européenne, on peut cliquer sur « Récupérer l'Alt Store ». Et là, il faut passer par un certain nombre d'étapes, notamment une étape de paiement. Et je pense que c'est là, en faisant ça, j'ai repensé à toi, Benjamin, et j'ai enfin compris ce que tu avais dit à un moment sur le Core Technology Fee, c'est-à-dire cette fameuse taxe de 50 centimes d'euros que toutes les applications gratuites doivent payer à Apple au-delà d'un million de téléchargements par an, sauf lorsqu'il s'agit justement d'un App Store, d'une place de marché alternative, et l'App Store lui-même, cette place de marché, s'installe gratuitement sur l'iPhone, mais l'éditeur de l'App Store alternatif doit payer dès le premier chargement, pour chacun des téléchargements, 50 centimes d'euros. C'est l'exception qui fait que, dans certains cas, l'éditeur doit payer tout de suite dès le premier téléchargement. Ça m'avait échappé, et donc c'est toi qui avais raison. Je voulais aussi souligner ça, parce que j'avais été très étonné quand tu avais dit ça pendant une des émissions.
J'avais trouvé cette info, et je n'avais jamais réussi à la retrouver après, donc j'étais embêté. J'ai eu l'impression que je m'étais trompé, mais ça me rassure.
Alors en fait, c'est surtout, je trouve, la démonstration que tout ça est très compliqué. en partie à cause d'Apple, qui fait quand même tout ce qu'elle peut pour éviter le développement de ce genre de trucs-là. Mais on verra comment se passe ça, si une discussion pour une autre fois, les négociations avec la Commission européenne. Donc, on fait ça. Donc, déjà, première chose, puisque par définition, l'éditeur de l'Alt Store doit payer 50 centimes d'euros à Apple pour chaque utilisateur, cet App Store alternatif est donc payant. Et donc, avant de pouvoir l'installer, il faut payer 1,50€ hors taxe, soit 1,80€ en France pour avoir le droit de l'installer. Donc, on crée une sorte de compte sur Alt Store pour pouvoir installer ça. Alors, l'ironie du sort, c'est que j'ai pu payer 7,80€ via Apple Pay. Moi, ça m'a beaucoup fait rire, je m'y attendais pas en fait, et je vois Apple Pay pour installer l'Alt Store et ça devient tordu,
d'argent dans tous les sens.
Exactement. Alors, une fois qu'on a payé, ensuite on peut cliquer sur le bouton télécharger, download. C'est pour l'instant en anglais encore tout ça, hein. Et là l'iPhone te dit c'est pas possible. Ah, c'est pas possible parce qu'il faut donner l'autorisation. Donc là, c'est comme sur un Mac, quand on veut installer une application qui n'est pas notariée ou qui est un développeur inconnu, il faut aller dans les réglages de l'iPhone.
Ah oui.
Et à ce moment-là, on a une nouvelle ligne qui est apparue tout en haut des réglages, juste en dessous de son nom, là où il y a le compte Apple iCloud, pour autoriser l'installation d'une place de marché d'application alternative. Et ensuite, on retourne sur la page web, on reclique sur le bouton, et là, il faut, je schématise à peine, il faut dire qu'il faut bien autoriser la place de marché alternative 3-4 fois. L'iPhone dit bien, vous êtes sûr ? Non, vous êtes vraiment sûr ? Attention quand même. Voilà, Apple ne sera pas responsable, ceci, cela, etc. Et une fois que c'est fait, voilà, bon, enfin ça se télécharge et l'application apparaît dans les icônes d'un des écrans d'accueil de son iPhone.
Voilà. Donc, il faut vraiment avoir envie.
Faut vraiment avoir envie, voilà. On dira un mot juste après de à quoi ça sert tout ça, en fait. Ouais. Une fois qu'on a ça, donc on peut appuyer sur l'icône et on entre dans l'Alt Store, et donc dans lequel, pour l'instant, il n'y a que deux applications. On a évoqué Delta, donc ce fameux émulateur de console de jeux Nintendo, pluriel, hein, de tout un tas de modèles de consoles de jeux Nintendo. Je n'ai pas la liste, vous m'excusez, je ne suis pas spécialiste de ça, mais voilà. Et puis, une application qui s'appelle Clips, est un gestionnaire de copier-coller, là, de
presse-papier
déjà. De presse-papier, merci. De presse-papier multiple qui est capable de tourner en tâche de fond, etc. Donc, c'est l'exemple. Et justement, pivotons tout de suite sur à quoi ça sert les App Store alternatifs. C'est que ça permet d'accéder, dans certains cas, à des applications que Apple n'autorise pas. Et donc, un presse-papier multiple, capable de tourner en tâche de fond en permanence, c'est interdit sur l'App Store. Ça s'appuie sur une API d'Apple qui est une API publique, donc c'est déjà pas mal. Ils ont le droit, mais ça contourne en partie, en tout cas, les règles de l'App Store d'Apple, et c'est pour ça que ça ne peut pas être trouvable ailleurs que sur un App Store alternatif.
Ok.
Et alors, l'autre truc, donc là, on verra.
Donc, ça marche.
Donc, ça marche. Oui, ça marche. Voilà. Donc, j'ai installé la chose et ça marche. En tout cas, j'ai installé Delta. Clips, l'autre truc intéressant, c'est que...
C'est Clip, d'ailleurs. Hein. C'est pas, il n'y a pas de S.
Il n'y a pas de S, j'étais persuadé,
non,
pardon.
C'est Clip.
J'aurais dû vérifier avant. Et l'autre truc, c'est que Clip, justement, a un mode de financement différent et qu'on ne peut pas retrouver sur l'App Store, qui n'est pas disponible sur l'App Store d'Apple. C'est-à-dire que c'est un abonnement Patreon. Comme pour nous, voilà. Et donc, l'éditeur de Clip demande, bah, pour pouvoir l'utiliser, vous payez ce que vous voulez à partir d'un euro par mois pour pouvoir utiliser ça. Et ça aussi, c'est nouveau. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir sur l'App Store d'Apple. Et c'est intéressant, c'est une autre façon de voir la chose. Et on verra si ça prend. Il faut déjà que les App Store alternatifs soient nombreux et qu'il y ait un catalogue intéressant dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu nouveau aussi comme approche.
Ouais, alors, pourquoi il n'y en a que deux ?
Je pense qu'ils ont voulu tester un petit peu pour voir comment ça se passe. Je pense que, parce que c'est pas anodin non plus. Alors d'abord, je pense qu'il y a plein de raisons. Riley Testud qui fait ça... il a voulu être le premier, je pense. Pour ensuite avoir un catalogue un peu fourni, il faut qu'il ait des gens qui aient envie d'y aller. Et je pense qu'il a eu du mal à trouver, parce qu'il y a plein de gens qui sont en état d'attente pour voir comment ça va se passer.
Parce que qu'est-ce qui se passe si on est à la fois présent sur l'App Store et sur un autre magasin comme l'Alt Store?
Alors c'est là où on rentre dans des trucs un peu flous, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'on puisse. C'est-à-dire que moi j'ai fait un petit test, mais là où j'ai pu faire ce test-là que je vais raconter tout de suite après, c'est que mon App Store Apple, c'est un compte américain. D'accord. Donc dans l'exemple de Delta, l'émulateur de jeux Nintendo n'est pas disponible sur l'App Store français, mais est disponible sur l'App Store d'Apple américain. Et donc, j'ai essayé d'installer Delta, qui est aussi disponible sur l'App Store d'Apple américain, sur mon iPhone, qui a déjà Delta, qui vient de l'Alt Store, magasin alternatif, en Europe. Et là, l'iPhone m'a dit, ce n'est pas possible, il a donc détecté, ce n'est pas possible, l'application est déjà installée sur votre iPhone et venant d'un magasin alternatif. Donc, ça veut dire que quand même, Apple a fait ce qu'il faut pour qu'on ne se mélange pas trop les pinceaux et qu'on ne réinstalle pas plusieurs fois une même appli, surtout si elle est payante, ce qui serait dommage en l'état. Mais normalement, on fait le choix, soit on est sur un magasin alternatif, soit on est sur l'App Store d'Apple. Et une des modifications qu'Apple avait faites il y a récemment...
Apple permet aussi qu'on soit sur les deux. Dans ce cas, effectivement, on échappe au premier million, je crois. J'espère que je ne dis pas une connerie. Je dois dire une connerie. On échappe. Attends.
Non. Mais là où tu as raison, justement, c'est que...
On peut.
En fait, on peut. Mais si on a évoqué ça au début. Pourquoi l'application Delta d'émulation de jeux Nintendo n'est pas disponible sur l'App Store français ou sur aucun App Store européen? C'est parce que, comme c'est une application qui a pas mal de succès, elle va dépasser le million, je pense que c'est déjà le cas. Et quand on a choisi d'être présent sur un App Store alternatif, même le core technology fee des 50 centimes, le compte prend aussi en compte les téléchargements gratuits depuis l'App Store d'Apple.
Oula.
Voilà. Donc, si on essaie d'être clair, c'est super compliqué.
Ah ouais.
Jusqu'à aujourd'hui, quand on a une application gratuite qu'on distribue sur l'App Store d'Apple, on ne paye rien quand on est développeur. Ben oui. Tout va bien. C'est Apple qui prend ça en charge et ça fait partie des choses formidables de l'App Store d'Apple. En revanche, donc, si on met son application sur un App Store alternatif, à ce moment-là...
Même si elle est gratuite.
Si elle est gratuite, on paye... même si elle est gratuite, effectivement, si on paye 50 centimes au-delà d'un million, etc. Mais du coup, à partir du moment où on l'a mise sur un App Store alternatif, si on choisit de la mettre aussi sur l'App Store d'Apple, ça compte dans le million. Et du coup, l'éditeur de Delta a dit « Mais moi, je vais dépasser le million, c'est déjà le cas. Et je ne veux pas que mon application d'émulation de jeux Nintendo soit payante. Mais si je la mets sur l'App Store, ça va me coûter des ronds. » Donc, il ne peut pas. Puisqu'il veut que ce soit disponible sur son App Store alternatif. Et c'est là où Apple a joué un tour de cochon au développeur. C'est que lui, en fait, au départ, son idée, c'était de mettre son émulateur sur l'App Store qui était interdit jusqu'à il y a la semaine dernière. Quoi. Donc, il s'est quand même fait embrocher.
Gilles, je sais que tu es très à l'écoute de tout ce qu'on dit, même si tu es... discret, tu es sans doute très concentré pour essayer de comprendre parce que c'est assez complexe. D'abord, toi, est-ce qu'en tant qu'utilisateur, est-ce que tu vas avoir envie d'aller voir ailleurs comment c'est?
Absolument pas.
Ça m'étonne pas.
Alors, il me semble que c'est les. À la décharge d'Apple, je suis désolé Fabrice, je crois que la commission a commencé à faire les gros yeux à Apple en disant cette histoire d'émulateurs de jeux obsolètes, ça commence mal votre histoire. Il va falloir regarder ça. On va regarder ça de plus près. Et donc, il me semble que la machine, le fait qu'Apple ait fait machine arrière date de ça. Je ne veux pas dire de bêtises, ça mérite une vérification. C'est pas faute d'avoir dit que ça allait sûrement être une pétaudière pas possible, comparable à ce qu'on a pu connaître avec la dérégulation du marché de l'électricité ou du train au Royaume-Uni. Tu te souviens, Benjamin?
J'y étais français, pas, mais oui, j'ai suivi depuis la France.
Non,
oui.
Quand c'était l'enregistrement, tu as fait oui, tu as tiqué pour l'électricité et tu as fait oui quand j'ai parlé de la dérégulation du train au Royaume-Uni.
Ok, je n'y connais rien, mais j'ai dit oui parce que je te soutenais.
Bon, c'est bien. On avait un système à peu près simple où il y avait une contribution qui était sûrement trop trop élevée et à mon avis,
tu parles de quoi là qu'il fallait,
la redevance, je vais parler le détracteur, la taxe Apple sur payée par les développeurs sur l'Apple Store.
La
technologie fee. Et ça fonctionnait à peu près bien. On avait un échange de la mise à disposition d'outils.
Ça fonctionnait bien. De programmation. Nouveau, hein, Gilles?
Non.
Il parle d'avant l'ouverture à la concurrence. Bon, là, ça marchait bien, il y avait la commission de 30%.
Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Tu ne parles pas des 50 centimes. Tu parles des 30%, bien. Gilles.
Donc là, il parle de 30. Maintenant que c'est ouvert, c'est la pétaudière, dit-il.
Non, parce que la technologie fixe, c'est 50 centimes, Gilles. C'est pas pareil, là.
Oui. Non, mais il y avait quand même une part qui était prise de loyer, on va dire, sur
les 30%.
La présence en de 30 qui passait à 15 l'année au bout d'un an.
Oui, mais c'est la condition. C'est pas une taxe.
On pouvait discuter de la pertinence de la du taux trop élevé ou pas de cette dîme qui était prise par Apple. Tout le monde a convenu au début que c'était tout à fait modique par rapport à ce que prenaient d'habitude les éditeurs par rapport aux créateurs d'applications. Là, c'est devenu insupportable. Là, maintenant, chaque boutique d'applications alternatives va avoir ses propres exclusivités. Il va y avoir des redevances, des prix qui vont être demandés ou pas, des prix qui vont être accordés ou pas aux développeurs. Ça va devenir extrêmement complexe pour l'utilisateur, pour les petits développeurs également, et quid ensuite des boutiques d'applications qui vont fermer boutique. Je vais vous donner un exemple avec la musique fixe. C'est la matrice de ce type de système économique avec un device, une boutique, une application et des contenus. Au moment de l'Apple Store, de l'Apple Music Store, j'ai acheté une autre boutique de musique qui s'est mise en place avec des flux qui installaient de la musique, pas en AC, mais un truc voisin du MP3 amélioré. Au bout de une douzaine de mois, la boutique a fermé et les flux en streaming n'étaient plus disponibles, même pour de la musique que j'avais achetée. J'ai découvert des trucs sympas qu'on a trouvé ensuite sur l'Apple Music Store. Mais c'est vraisemblablement
vous avez déjà payé.
des choses comme ça qui vont se produire, oui.
Et Fabrice, j'ai deux questions. Qu'est-ce qui se passe typiquement si une boutique fait faillite et ferme? Ouais, j'ai une deuxième question après.
En fait, c'est ce que vient de décrire Gilles, mais c'est pas nouveau des app stores alternatifs. C'est-à-dire qu'au final, ça fait des années que maintenant, on s'aperçoit qu'on n'est plus vraiment propriétaire de ce qu'on achète, même si c'est en dehors d'abonnement. C'est-à-dire que par définition, tout le monde comprend bien que on n'est pas propriétaire des séries ou des films qu'on regarde sur Netflix, puisque dès que l'abonnement s'arrête, même si Netflix continue d'exister, si on ne paye plus son abonnement, on ne peut plus regarder parce qu'on ne stocke pas chez soi. Mais c'est finalement la même chose pour, si on pousse le raisonnement pas si loin que ça, pour les films ou les séries qu'on achète chez Apple, par exemple, ou qu'on achète chez Amazon, ou qu'on achète ailleurs. C'est-à-dire que, y a un moment, et c'est déjà arrivé, par exemple, on achète un film sur l'Apple Store, sur iTunes. C'est plus le bon mot, mais tout le monde va comprendre. Et puis, on est content de la version qu'on a achetée, mais il y a une nouvelle version, et donc le film est remis à jour avec Director's Cut, tout ce qu'on veut. Je force le trait un petit peu, parce que dans ces cas-là, il va y avoir deux versions, mais à ce moment-là, on n'a plus la version qu'on a achetée, mais on a une version mise à jour. Dans certains cas, c'est très bien, parce qu'on avait acheté la version 1080p HD à l'époque, et puis maintenant, quand il y a la version 4K, on l'a, la version 4K, sans payer en plus. Mais donc, ça veut dire que quand on achète quelque chose en ligne, on n'est plus exactement propriétaire, on est quand même plus proche de la location. Ça veut dire que c'est pareil pour les App Store alternatifs. Si on achète une application ou qu'on l'installe depuis l'App Store alternatif et que cet App Store alternatif disparaît, on n'a plus accès à l'application en question. Et ce serait pareil si on force le trait, mais c'est moins évidemment probable. Si l'App Store d'Apple disparaît, ben on n'a plus rien non plus. C'est normal.
Non, on a installé les applications, elles sont là, elles sont même dans tes sauvegardes, puisque tu peux continuer à avoir accès à des applications qui ont été retirées de l'App Store. Et je ne suis pas sûr du tout que quand tu achètes un film et qu'il y a une nouvelle version ou une mise à jour qui a été proposée, elle soit installée de force sur ton Apple TV ou ton Mac, dans la mesure où pour les livres, on t'annonce qu'il y a une nouvelle version, on te propose de télécharger cette nouvelle version, mais en aucun cas on ne te l'impose. Je ne pense pas que ce soit le
C'est pas
cas
ça
pour
que je
les
veux
livres.
dire. On t'impose pas. Si tu as, dans le cas des livres, parce que c'est pareil pour iBooks, effectivement, on te propose une mise à jour parce qu'il y a une correction. Alors tu la mets pas, c'est très bien. Mais si tu effaces le livre et qu'ensuite tu veux le retélécharger, tu auras forcément la dernière version. C'est pareil pour les applications sur l'App Store d'Apple aujourd'hui. Et c'est pareil si tu as une application qui tourne encore mais qui est sortie de l'App Store. Si tu l'effaces ou si tu fais une réinstallation à zéro de ton iPhone, il y a des chances que tu ne puisses plus l'installer. Parce que, en plus, elle n'a pas été mise à jour, parce que le
Ouais, c'est
développeur
ça.
ne la propose plus à partir de iOS 13, etc., etc. Donc, il y a toujours des cas où tu peux pas mettre ça dans un tiroir et le ressortir dans 15 ans.
Non.
C'est pas comme ça que ça marche.
Ouais. J'ai une autre question, Fabrice. Pour un développeur, petit développeur indépendant ou même un éditeur, est-ce que c'est un peu comme, tu sais, quand on quittait EDF et pour la concurrence, et puis après on pouvait plus vraiment y revenir? Il y a eu une période où c'était comme ça. Je crois que ça a changé. Est-ce que c'est un peu pareil? Si on met une app sur un magasin tiers, et si on change d'avis, si on est pris de remords, si on se dit j'ai fait une connerie, finalement je ne veux être que sur l'App Store parce que c'est mieux. Est-ce que on va dire le fait d'avoir fait sécession une fois fait qu'on est redevable ad vitam?
Non, alors ça fait partie des choses que Apple a modifiées il n'y a pas très longtemps, où c'était le cas exactement comme tu décris jusqu'à donc il n'y a pas longtemps, et maintenant le développeur d'une application a le droit de changer d'avis une fois. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que c'est lié aussi à son compte de développeur? C'est probablement le cas. Et donc, on a le droit de tâter l'eau de l'étang voisin une fois. Puis si finalement, ce n'est pas bien, on peut revenir dans le cocon d'Apple.
En clair, si on redonne l'exclusivité à l'App Store,
Ouais.
ça redevient gratuit, entre guillemets.
Exactement. Exactement.
Bon. Bon. Et
on voit bien que c'est toujours un peu en devenir, quoi. C'est-à-dire que, rappelons que les négociations entre la Commission européenne et Apple ne sont pas terminées parce qu'il y a une enquête en cours sur, auprès d'Apple, de Google, de Meta, sur leurs réponses au DMA qui sont considérées comme pas forcément tout à fait suffisantes. Donc, ça peut encore changer.
Errare humanum est, perseverare diabolicum.
Tu peux nous traduire, Gilles ?
L'erreur est humaine et la persévération est diabolique.
La persévération, t'es sûr ?
Oui, oui. Persévérance, peut-être.
Chers auditeurs, écrivez directement à Gilles Dounet.
Bouchez-vous les oreilles ou écrivez directement à Gilles Dounet. Boîte postale 57. Bon, on passe, alors j'ose pas appeler l'info de la semaine, on va dire au massacre de la semaine peut-être, n'est-ce pas Fabrice? On a parlé de cette broche, de cet accessoire, ce petit appareil branché sur l'IA de ChatGPT, sur laquelle deux anciens d'Apple... ont travaillé pendant plus de 5 ans, je crois, engloutissant un quart de milliard de dollars. Human donc, a sorti sa fameuse broche, le AI Pin. Je rends à César ce qui est à César. C'est-à-dire que depuis le début, Fabrice, tu as été extrêmement sceptique sur le concept et sa réalisation. Moi, j'avoue que j'étais assez attiré. J'avais assez envie de voir ce que ça allait donner. Je pensais que ça pouvait être une bonne surprise. Et donc, cet AI Pin, il a commencé à arriver il y a quelques semaines entre les mains de vrais gens, comme tu dis. Et c'est une catastrophe absolue. C'est vrai que j'ai rarement vu des tests aussi mauvais. Et à l'unisson, il n'y a pas un seul confrère, consoeur, qui a fait un test positif de l'AI Pin. On a l'impression que c'est carotte sans cuite pour le produit et peut-être pour la boîte qui est derrière. Qu'est-ce qu'on lui reproche en fait ? Quels sont les constats qu'on retrouve chez un peu tout le monde, de MKBHD à Johanna Stern
et à tous les autres ? On reproche... La liste est longue. D'abord que c'est très lent quand ça marche. Donc, on rappelle aussi que ça ne repose que sur une interaction vocale. Et donc, c'est ça, moi, mon premier scepticisme, c'est d'avoir un appareil qui ne repose que sur la voix pour interagir. Et je ne comprends pas comment ça peut marcher. Même quand on est, je dis même pas dehors, mais on est dans une pièce avec d'autres gens, on n'a pas forcément envie de dire à sa broche, dis-moi ci, dis-moi ça, qu'est-ce que tu vois, etc. Donc ça, pour moi, c'était déjà raté. Mais en plus, en admettant qu'on puisse le faire, bah, c'est très lent. Il se trouve que les tests ont montré que ça chauffait pas mal. Et que, en fait, l'appareil souvent... alors d'abord, ça se porte sur la poitrine, en gros, et donc ça, c'est chaud et c'est désagréable. C'est suffisamment chaud pour être désagréable. Et que l'appareil se met en berne de temps en temps parce qu'il faut qu'il refroidisse tellement ce qu'il n'arrive pas à faire, lui, demande de calculs. Et puis, visiblement, ça ne marche pas. C'est-à-dire que quand on pose une question, ça peut mettre jusqu'à 10-12 secondes avant de répondre. Il y a une caméra, enfin un objectif qui prend des photos devant soi et on peut demander à l'IA multimodale, bah, qu'est-ce que tu vois, décris-moi, qu'est-ce que c'est, et puis il se trompe.
Il avait fait le test en montrant une barre de sneakers, genre un Nuts ou un Mars, devant les AI Pin, et la question c'était, est-ce que c'est bon pour ma santé? Au bout de quelques secondes, l'AI Pin a répondu, sachant qu'il y a 50 grammes de sucre, tel et tel produit hyper usiné, etc. Non, mais si vraiment t'insistes, vas-y.
Alors déjà, voilà. Et ça, c'est quand il répond directement et qu'il ne répond pas à côté. Ouais. Le test vidéo de David Pierce de The Verge Rien que l'ouverture, c'est terrible. Ça commence là-dessus. Il est dans la rue, il est devant un bâtiment. Il y a un grand, une grande pancarte Ride RYDE, qui est une boîte de taxi un peu comme Uber. Et justement, il lui demande c'est quoi qu'est-ce que c'est ? Et c'est pas Uber qui dit, mais enfin, il se trompe. C'est-à-dire que bien que ce soit écrit Ride en grosses lettres de 1 mètre de haut, il répond à côté en disant que c'est le QG de l'application concurrente, quoi. Voilà, donc ça commence mal, ça commence très mal. Ensuite, tu veux envoyer un texte, un SMS à quelqu'un, et puis alors du coup, tu dis, tiens, envoie un... Alors, c'est pas comme ça, mais on peut envoyer un SMS à Benjamin, et puis du coup, ah oui, alors c'est Benjamin machin, truc, ou bidule. Et puis des fois, c'est même il dit pas tout, etc. Enfin voilà. Et puis finalement, l'autre truc qui va pas du tout, c'est que ça a été présenté comme justement vouloir remplacer le smartphone globalement, ouais. Parce que le smartphone est la base de tous les maux. On dit qu'on s'en sert trop et qu'on le regarde trop et que on est trop dépendant. Sauf qu'on s'aperçoit que le smartphone, c'est quand même il y a que ça de vrai finalement, parce que comme ça n'est pas lié du tout, ni à l'iPhone, ni à un smartphone Android. C'est donc totalement indépendant, tellement que ça implique d'avoir un numéro de téléphone différent et donc un autre abonnement. Alors, outre le prix, on rappelle que ça coûte $700 hors taxe, c'est toujours hors taxe, ouais. Les prix aux États-Unis, rappelons-le. Hein, c'est un appareil qui n'est disponible qu'aux États-Unis pour le moment, je pense que ça va le rester. Et il faut ensuite payer $24 par mois.
Par mois, par mois.
Pour un abonnement mobile. Alors, je m'empresse d'ajouter que les abonnements mobiles aux États-Unis sont plus chers qu'ici. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait 20 euros. On a très peu de gens ici qui payent 20 euros pour un abonnement mobile. Voilà, il faut remettre ça dans le contexte. Mais donc, c'est un prix fou pour un appareil.
Et là, c'est juste l'abonnement de l'iPin, du coup.
C'est juste pour l'iPin. Et donc, on a un autre numéro. Ça veut dire que quand on commence à utiliser ça et qu'on a forcément un smartphone à côté, puisque ça ne peut pas le remplacer, on commence à avoir, quand ça marche, des conversations SMS d'un côté et qui ne se mélangent pas à l'autre. Et c'est là qu'on voit toute la puissance, justement, d'un écosystème comme celui d'Apple où quand on reçoit un SMS on l'a sur l'iPhone, on l'a sur l'Apple Watch, si on en a une, sur le Mac, sur l'iPad, on a partout exactement les mêmes conversations et tout ça se mélange et alors qu'avec les iPins ça se mélange pas. Je pense qu'on va pas enfoncer le clou encore plus profond. Ça marche pas, c'est très cher, ça ne sert à rien, c'est vraiment pas le bon produit, quoi. L'idée de base était ratée on voit bien que le concept marche pas et que le premier produit marche pas. Pour essayer de faire une réflexion positive, j'ai entendu un podcasteur qui m'a fait sourire, qui a vraiment essayé de trouver un truc positif en disant les premiers tests, les premières reviews étaient tellement mauvaises que ça veut dire que maintenant, s'ils arrivent à sortir une version 2, on va vraiment rien attendre de leur part et du coup, on sera beaucoup plus à l'écoute.
C'est horrible, mais c'est vrai.
Voilà.
C'est vrai. Bon, tu parlais de la lenteur. Alors, 12 secondes, c'est long, mais en même temps, vu que rien n'est traité en local, hein, tout passe par le réseau mobile et le cloud et tout, c'est des délais qui sont à peu près standards. Il faut le temps que ça va. Se soit envoyé, il faut que tant que ce soit envoyé, que ce soit analysé dans le cloud, que ça redescende, processé par les iPin, finalement, c'est pas délirant, c'est sans doute trop long à l'utilisation, mais c'est pas délirant. Ça pose, c'est qu'il y a besoin de cette connexion, c'est que ça rajoute aussi du temps. C'est pas très bon pour la confidentialité des informations qui passent. Et forcément, ça doit avoir un sens à l'oreille d'Apple qui prépare sa conférence développeur du mois de juin et la sortie à la fois d'iOS 18 et de l'iPhone 16 où on dit que beaucoup, beaucoup, le plus possible sera fait en local.
Alors, c'est ça qui va être sûrement très intéressant. Pour revenir juste un tout petit peu sur la lenteur, quand on utilise l'application ChatGPT ou Copilot ou Perplexity sur son iPhone aujourd'hui, ça ne met pas 10 secondes pour répondre. Ça met du temps, il y a un délai, mais ça ne met pas 10 secondes. Donc, visiblement, le truc de Humane est quand même plus lent que la moyenne. Mais c'est vrai que avoir une capacité de traitement comme l'ont déjà les processeurs d'Apple sur tous les appareils quasiment, et probablement encore plus avec le M4 qui va venir et la 16, non, la 18, j'ai oublié, la 18, ce qui va sortir avec l'iPhone.
La 18.
La 18. Ça devrait permettre à Apple de faire du traitement en partie en local. Et ils ont déjà commencé, c'est ça qui est rigolo à voir. Ils en parlent un peu de l'IA. Ils disent qu'ils vont être présents sur le sujet. Et en plus, il y a déjà des publications. Et notamment, ils travaillent sur les modèles de langage. Donc, on parle souvent des LLM, donc les Large Language Models, donc les modèles de langage de grande taille, qui ne peuvent pas tourner en local sur n'importe quelle machine parce qu'il faut beaucoup de mémoire, etc. Mais qu'il y a un projet qui s'appelle Ferret qui est capable de... Ils ont déjà commencé à publier des recherches sur le fait d'avoir des modèles plus petits. Certains espèrent que ce serait suffisamment petit pour même tourner directement sur la montre pour remplir certaines opérations, ce qui serait vraiment intéressant pour Siri. Siri 2, le retour, ce sera bien. Et puis aussi, il y a un autre... le problème des grands modèles de langage d'IA aujourd'hui, c'est que si tu veux utiliser un truc à 70 milliards de tokens, là je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, il faut mettre la totalité du modèle en mémoire. C'est tout ou rien. Et eux, ils travaillent sur un modèle qui serait capable justement d'être coupé en petits bouts, et tu en charges une petite partie en mémoire et tu laisses l'autre en stockage. Et quand tu as besoin d'une autre partie, donc tu fais comme du swap. Donc c'est une sorte de modèle de swap sur les modèles de langage. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça, c'est ça qui devrait permettre aussi de faire tourner ça sur un iPhone qui ne serait pas forcément muni de tout plein de mémoire. Ouais. Donc voilà, Gilles, c'est très intéressant pour la WWDC, c'est sûr.
Ouais. Et Gilles, l'enjeu de l'IA en local, ça va aussi être un des points clés sur lesquels on va attendre Apple le 10 juin.
Alors, pour répondre à ta question, c'est extrêmement important pour Apple parce que c'est une question presque philosophique de garder des choses en local. Ce qui est dans votre iPhone, ce qui est à vous dans votre iPhone, reste dans votre iPhone. Et c'est le cas depuis le Macintosh face à IBM. C'est le grand système, le client et le serveur. On reste du côté du client. Et pour revenir compléter ce que disait Fabrice, le système Ferret fonctionne sur le modèle de l'open source. C'est pour ça que des choses ont été publiées. Et il y a déjà eu une expérience, je crois qu'on en a parlé un numéro auparavant. Il y a déjà une expérience gagnante comme ça de la part d'Apple, qui est l'outil de compilation GCC et avec LLVM, qui avait été monté pour pouvoir compiler tout un tas de codes ensemble, de codes de langage différents de haut et de bas niveau, pour pouvoir avoir un système d'affichage cohérent. Et c'est ce qui avait permis à l'iPhone d'être développé aussi vite, et ce qui a permis ensuite à Apple, dans un second temps, de produire le langage Swift, qui lui aussi a été mis à la disposition de la communauté des développeurs avec de l'open source. Ouais. Donc on est vraiment quelque chose qui touche à l'ADN d'Apple pour tout un tas de raisons.
Bon, ben on va suivre. Hein. 10 juin, ouverture de la WWDC avec la keynote très vraisemblablement qu'on pourra suivre ensemble. Et on souhaite bon courage à l'équipe de Human pour se relever de ce lancement catastrophique. Il n'y a pas de décision. Hein. Je sais qu'il y a eu des licenciements dans l'équipe, mais il n'y a pas encore eu de décision sur l'avenir de l'entreprise, à ma connaissance. Alors, un petit message important, en tout cas pour nous, hein, si vous appréciez notre travail, notre boulot toutes les semaines pour vous proposer iWeek, la semaine Apple, on vous propose de rejoindre la communauté iWeek sur Patreon. C'est l'un des moyens que vous avez de nous aider à continuer l'aventure. L'adresse, vous la connaissez, c'est patreon.com/iWeek. Pour quelques euros, vous pouvez contribuer à nous encourager pour chaque nouvel épisode qu'on vous propose. Et c'est chouette que vous soyez de plus en plus nombreux comme ça à vous soutenir. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Et on a vraiment besoin de votre présence pour continuer. On passe au journal de la semaine. Alors, je vous propose qu'on fasse court sur chaque news. Comme ça, on pourra en prendre le plus possible, mais en étant bref et concis. On va commencer par cette tension entre la Chine et les États-Unis autour de TikTok. Alors, multiples tensions, hein, parce que même en Europe, la version light de TikTok est menacée d'être interdite, hein, c'est dans les heures qui viennent. La version principale aux États-Unis aussi est sous la menace d'une interdiction. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle. Et au même moment, en Chine, eh bien, ce sont des applis majeures qui sont désormais interdites sur l'App Store. On parle de WhatsApp, de Threads, de Signal et de Telegram. Alors, j'ai envie de dire, l'interdiction sur l'App Store, c'est peut-être nouveau, mais ça fait longtemps qu'on ne pouvait pas les utiliser en Chine, même si on avait réussi à les installer sans passer par des VPN, des systèmes plus ou moins compliqués pour contourner le blocage des opérateurs et des réseaux chinois. Bon, de toute façon, le climat global n'est pas très bon, on va dire. Si on met Taïwan dans la balance, la Russie, etc., bon, finalement, ça se reflète aussi dans les discussions et les négociations entre la Chine et les géants du numérique, dont Apple, dont les opérateurs des réseaux.
Oui, forcément. Là, tout ce qui est donc WhatsApp, Threads. Alors, Threads, c'est un petit peu différent, mais pour ce qui est WhatsApp, Signal et Telegram, c'est donc des messageries qui utilisent du chiffrement de bout en bout et donc que le gouvernement chinois ne peut pas écouter. Donc, ça doit les embêter un peu. Pour Threads, je pense que c'est là vraiment, c'est ça qui met la puce à l'oreille sur la potentielle réponse à un probable bannissement de TikTok aux États-Unis et ailleurs, mais donc surtout aux États-Unis. Parce que vous voulez pas de notre réseau social, et ben on veut pas du vôtre, et puis ainsi de suite. On remarque d'ailleurs que on parle pas de X là-dedans. Donc j'étais un peu surpris finalement de pas voir X, ex-Twitter, dans la liste des applications interdites par le gouvernement chinois.
Gilles, un mot sur cette tension?
Oui, Fabrice a très bien résumé. Je vais pas rajouter, paraphraser. Ce qu'il a très très bien dit, juste que oui, ça se tend et il était vraiment temps de prendre surtout des mesures et de prendre conscience du mode de fonctionnement de TikTok dans la façon de fonctionner du néocortex ou ne pas fonctionner, en l'occurrence chez les gens qui l'utilisent trop longtemps et trop souvent, et puis les risques que ça faisait courir aux sociétés ou aux gouvernements qui employaient des gens qui l'utilisaient, surtout.
Dans le même temps, ça se calme un peu en Europe entre Apple et l'Union européenne. À propos du NFC, vous savez, qui depuis des années était verrouillé et réservé notamment à Apple Pay sur l'iPhone. Apple s'est engagé en début d'année à ouvrir le NFC, donc le sans contact, à des systèmes de paiement tiers. Et apparemment, le mouvement est sur le point d'être validé par les autorités européennes, Fabrice. Ça devrait faire un souci de moins pour Apple.
Oui, c'est-à-dire que donc la puce NFC, c'est Apple a toujours dit, c'est nous qui faisons, il y a que nous qui avons accès à ce que peut faire la puce NFC, donc c'est ce qui est utilisé par exemple pour Apple Pay. Les autres, les banques n'avaient pas accès direct, donc devaient forcément passer par Apple Pay pour ensuite gérer les paiements. C'est aussi pareil, la même chose pour les tickets de transport. Pour Paris, par exemple, le Pass Navigo est toujours pas ouvert à l'iPhone. On peut utiliser son Android depuis des années, mais pour l'iPhone, ça ne sera que fin mai, début juin. On espère que ce sera prêt pour les Jeux Olympiques, en gros. Mais tout ça, c'est parce que Apple a toujours dit c'est nous qui gérons l'utilisation de la puce NFC. C'est là où il faut trouver, c'est un exemple, il faut trouver un équilibre entre la sécurité prônée par Apple, et c'est pas faux évidemment, mais aussi le côté un peu pratique pour les utilisateurs, tant qu'à faire. C'est-à-dire que c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas en 2024 encore utiliser son iPhone pour passer les portillons de métro, que ce soit à Paris ou ailleurs.
Ouais, je crois que c'est censé arriver dans le courant du mois de mai. Hein. Mmh. Le Pass Navigo enfin sur iPhone, juste à temps pour les JO si tout va bien. On aurait pu en parler il y a 3 minutes, mais programme.
Il y a du nouveau, parce qu'il y a un membre de la Banque Centrale Européenne, même pas la présidente, qui s'est fendu d'une lettre à Margaret Vestager. Le monsieur s'appelle Piero Cipollone, et en disant ça ne va pas du tout. En fait, en gros, il veut que les banques aient accès à tout et ne rien payer. Voilà, on a un nouveau candidat au rôle du sycophante glaireux pour dire non, Apple n'en fait pas assez, on en veut plus. Je suis désolé si effectivement il faut de l'interopérabilité, de l'accès à tout, partout, c'est tout le temps. Les banques n'ont qu'à arrêter de facturer les retraits aux distributeurs automatiques de billets quand ce n'est pas celui de leur réseau, de leur propre réseau bancaire. On va, comment dire, c'est devenu un alali, tout haro sur le baudet. Tout le monde veut se payer une tranche de la bête, et puis sous prétexte de monopole, ça y est, il faut dépecer le modèle économique d'Apple sur les services, parce que le modèle dégage de l'argent, et faute d'avoir innové, on veut pouvoir avoir accès gratuitement. Quand j'ai lu la lettre, il y a un papier sur Apple Insider avec le lien sur la lettre à la commission. Je me disais, je vais m'asseoir, je vais venir avec mes copains et m'asseoir à la table de monsieur quand il est au restaurant. Je me dis, ah, ça a l'air bon. Et il commençait à me servir dans son assiette. S'il proteste, il dit, bah, j'ai faim.
Voilà, pique-sifrite. Exactement. On aurait pu en parler il y a 3 minutes quand on évoquait les travaux d'Apple autour de l'IA en local. C'est Challenge qui nous apprend que à la fin de l'année dernière, Apple a très probablement mis la main sur une start-up française, une start-up basée à Paris, qui s'appelle Data Caleb, et dont la spécialité, c'est la compression des algorithmes. Alors, ça a un lien très direct avec les annonces potentielles du mois de juin, Fabrice.
Ben, ça touche deux aspects. Ça touche l'IA, parce que pour faire tenir les modèles de langage, notamment d'IA, en mémoire, et on peut les compresser, donc savoir compresser les algorithmes, c'est intéressant. Et puis ça touche la vision aussi numérique, et donc ça touche plutôt, a priori, le Vision Pro, pour faire de la reconnaissance d'objets et d'environnement, et de traitement 3D pour ça, ouais, absolument. Alors, c'est toujours pareil, Apple rachète un truc, on ne le dit pas parce qu'Apple, en fait, ne le dit pas, jusqu'à ce qu'il y ait potentiellement un produit qui sorte et que, voilà, ça va sortir.
Bien sûr.
Leur
site a disparu, oui. Ouais.
C'est un indice supplémentaire.
Ouais, absolument. Si vous attendez le Mac Mini M3, bah, vous risquez d'attendre longtemps, n'est-ce pas, Fabrice?
Oui, il semblerait qu'il passera directement au M4. On a déjà eu l'exemple de l'iMac M1 qui est passé directement au M3. Voilà. Et historiquement, le Mac Mini a jamais, jusqu'à présent, été mis à jour très très souvent. Il y a eu plutôt souvent des délais assez longs entre deux mises à jour de Mac Mini. Bon, ça ne va pas faire très mal au marché du Mac Mini s'il passe directement au M4, il me semble.
Bon, on parlait de mauvais buzz tout à l'heure à propos de l'AI PIN. On ne peut pas dire que le tissage fin d'Apple est croulé sous les louanges depuis sa sortie depuis qu'il a remplacé les étuis en cuir, hein, qui étaient quand même de bonne qualité, qui tenaient assez longtemps. Le Fine Woven serait potentiellement en voie de disparition. On le trouve toujours sur l'App Store, l'Apple Store en ligne, mais Apple aurait arrêté la production des accessoires en tissage fin, selon Kosutami Ito sur le réseau X. Est-ce que tu as du Fine Woven dans tes accessoires, Gilles?
Non, j'ai pas, dans les simples raisons que je suis resté à l'iPhone 12. Je n'ai toujours pas bougé. Alors, si on le trouve toujours, c'est une question de pipeline, de circuit d'approvisionnement. Si ça ne se vend pas beaucoup et que le circuit est plein, Apple ne veut pas plus de 6 à 8 semaines de stock dans son circuit de fabrication, grossiste, distribution. Si le transit est un peu lent, on va dire, ça va peut-être nous amener jusqu'au mois d'août ou au mois de juin, mais c'était franchement pas une réussite et la durabilité de ce truc qui était cher était franchement indécente.
Ouais, ça partait en miettes assez rapidement. J'en ai pas, donc je peux pas témoigner. Les éditeurs de navigateurs web sont pas contents de l'écran de choix du navigateur par défaut dans iOS 17.4. Fabrice, pourquoi donc ?
Alors, on rappelle que c'est un écran de choix qui est apparu donc avec 17.4. On redémarre son iPhone et puis c'est là encore ça vient de l'Europe qui fait pression sur Apple pour essayer d'éviter la position de monopole ou en tout cas de domination et donc pour forcer les utilisateurs d'iPhone à prendre connaissance du fait qu'il y a autre chose que Safari dans la vie. Et donc, on en avait parlé ici, hein, il y a un écran qui présente 12 navigateurs possibles. Pour chaque utilisateur, la liste est présentée de manière aléatoire, on n'a jamais la même. Et donc, on apprend, dans certains cas, qu'il y a aussi Brave, qu'il y a Firefox, qu'il y a Ecosia, qu'il y a DuckDuckGo, etc. Et on demande aux gens de choisir le navigateur par défaut. Et les éditeurs donc des navigateurs concurrents trouvent que ce n'est pas suffisant et que de toute façon, finalement, les gens vont quand même choisir Safari par défaut et qu'ils n'ont pas suffisamment de place donnée aux autres navigateurs. Bon, là, il y a un moment, il faut arrêter. Je pense que la question est insoluble parce que cet écran de choix de navigateur par défaut, de toute façon, ça ne marche pas. On savait que ça a déjà été testé dans Windows. Et ça a été un flop retentissant. En fait, c'est pas comme ça qu'on fait. Et puis, je trouve que on a un exemple flagrant du fait que c'est pas nécessaire. C'est que malgré Safari installé par défaut sur tous les appareils Apple et malgré Edge installé par défaut sur tous les appareils Microsoft, c'est quand même Chrome qui a la plus grosse part du gâteau. Donc finalement, les gens savent très bien qu'il y a d'autres navigateurs, en tout cas suffisamment pour que il n'y ait pas de problème de part de marché.
Ouais. Bon, je termine par une info qui vient de Londres où Adobe tenait une nouvelle version d'Adobe Max, son événement dédié à la créativité, sur une seule journée cette fois, hein, contrairement à l'événement qui a lieu traditionnellement au mois d'octobre à Los Angeles. Donc Adobe y a présenté la nouvelle version bêta de Photoshop avec la troisième génération de Firefly, son IA générative d'images, et notamment un nouvel outil d'images de référence qui permet de trouver plus rapidement de nouvelles idées. Voilà, il y a aussi une nouvelle fonctionnalité pour générer une image qui est directement intégrée au workflow de Photoshop qui accélère le processus d'idéation et de création pour obtenir encore plus rapidement un contenu unique. C'est ce qu'on peut lire dans le communiqué d'Adobe. On passe à nos coups de cœur, à nos cartons. Alors, je ne sais pas s'il y a un carton parmi vous, je n'ai pas l'impression. Si, peut-être toi, Fabrice.
Ah si, ah, si,
oh,
si, si, si.
Ah oui, t'as pas l'air content, dis donc.
Ah non, un carton rouge, là. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous raconter ma petite vie. Alors, mais je pense que ça touche plein de gens. C'est-à-dire qu'il y a eu un petit remaniement chez tous les opérateurs mobiles de leurs abonnements. Et alors donc, je suis, ou en tout cas j'étais donc chez Soch, il y a des nouveaux abonnements. Et comme d'habitude, quand tu es déjà abonné, tu n'as pas le droit de passer à un nouvel abonnement moins cher. Et donc, j'ai quand même essayé en passant par le chat de Soch en disant « Bon, bah alors voilà, moi c'est celui-là qui m'intéresse, plutôt que de payer, je ne sais plus, 15 euros, je préférerais en payer 10 parce que du coup, ça me suffit bien. Ah non, monsieur, ce n'est pas possible. Bon, bah merci. Donc, au revoir. » Et donc, je suis obligé, entre guillemets, puisque je veux changer, de faire un passage. Donc là, je vais faire un passage chez Bouygues Télécom, parce qu'on peut passer de l'un à l'autre quand même. Heureusement, ça, la législation est suffisamment bien faite depuis des années, on peut passer gratuitement de l'un à l'autre. Le problème, ce qui m'ennuie, c'est que moi, j'ai une Apple Watch 4G, et il n'y a que deux opérateurs sur quatre en France qui permettent d'avoir une eSIM pour l'Apple Watch, c'est Orange, donc Soch, et SFR. Et il se trouve que SFR, pour des raisons personnelles, je n'irai plus jamais de ma vie, mais je suis bloqué là-dessus.
Je te comprends.
Vous m'excuserez, il y a 15 ans, j'ai eu une mauvaise expérience, je n'irai plus jamais. Donc, je suis obligé donc, de passer chez Bouygues, et je vais y rester un mois, pour ensuite repasser chez Soch, parce que je préférais retourner à ma montre 4G. Et je trouve ça nul. Et comment, pourquoi, quelle est la raison, à part marketing et à part qu'ils ne veulent pas faire d'efforts, que les anciens abonnés ne puissent pas profiter des nouvelles offres? C'est nul.
Nul.
Voilà, ils poussent les gens dehors ou à faire des trucs. Et donc c'est du. C'est, voilà, donc, voilà ça m'agace et je vais faire ça. Voilà.
Ils ne mériteraient même pas que tu reviennes.
Ben oui, mais c'est vrai, mais donc du coup je suis coincé puisque alors l'autre truc c'est que donc Bouygues Télécom quand tu vas regarder les forums, les gens qui demandent la eSIM pour la montre, ça fait 4 ans que ça dure et Bouygues Télécom dit oui bientôt. Et alors pourquoi ils le font pas eux? Et Free non plus, il me semble ne le fait toujours pas, je crois. Pardon Élie si j'ai dit une bêtise.
Je ne crois pas effectivement. Et on va demander donc, à Élie de nous confirmer voilà. Ça. Peut-être que François aura aussi l'info. Ok, bah écoute, voilà. On comprend, on compatit. Moi je viens de.
J'ai un truc aussi.
Je prépare mon déménagement dans quelques jours et donc je viens de faire installer la fibre par Free à ma nouvelle adresse et je veux dire que ça s'est très très bien passé et. J'ai eu droit à un technicien hyper sympa, hyper cool, voilà, patient, efficace, rien à dire. Rien à dire pour l'instant. Et les débits en Wi-Fi, je suis à 1 giga 2, je crois. Et en Wi-Fi 6 en plus, hein, je ne suis pas en Wi-Fi 7, je ne profite pas du Wi-Fi top moumoute de la box encore, mais ça dépote bien. Gilles, je sais que tu as un coup de cœur. Peut-être même plusieurs. Tu fais court, mais on t'écoute.
Oui. Alors, je voulais plussoyer avec mon ami Fabrice Demane. Moi, j'ai reçu un courrier cet après-midi de la part d'Orange qui me disait qu'il était désolé, mais c'est l'inverse. Ils étaient obligés de me facturer 3 euros de plus sur mon abonnement parce que c'est comme ça, ils avaient des frais, mon pauvre ami, et que j'étais obligé de passer par là. Or, je me pose la question de s'il fallait en passer quelque part, si je n'allais pas aller chez Free, finalement, puisque SFR, pour avoir été obligé de passer par eux, puisqu'ils étaient en situation de monopole, j'attendais avec impatience qu'Orange débarque, puis c'était les suivants, les seuls annoncés. Donc voilà, je vais me tâter et me sonder mes amis François et Élie, savoir si ça vaut vraiment le coup. Et maintenant, toi, Benjamin. Et j'avais donc un coup de cœur, j'en avais parlé lors du lancement, mais là, la série Manhunt vient de se terminer. Elle est vraiment très, très bien et elle donne vraiment une idée de. Alors, c'est d'après un livre d'un historien juriste. C'est sur la traque de John Wilkes Booth. J'avais posé une petite devinette. Quel était le rapport entre Manhunt et puis Masters of the Air? Et dans les deux cas, il y a le même acteur qui joue
On a Harry Herbert Crosby, et c'est également l'acteur qui joue dans Tetris, qu'on trouve également sur Apple TV+. Donc,
lui, il en exclut sur Apple TV+.
Voilà aussi, ça fait trois raisons de voir cet acteur qui rend très très bon.
Merci Gilles. Fabrice, oui.
Ouais, juste rajouter, pour pas terminer sur un coup de gueule, Joie, Bonheur, Allégresse, il y aura une saison 5 de For All Mankind. Il faut que je le dise parce que je saute de joie tellement c'est bien. Je vous rappelle que c'est la série de science-fiction la meilleure du monde et que personne n'a vu. Et donc, je vous en prie, allez donc la voir. D'autant plus que non seulement il y a une saison 5, mais qu'en plus, ils vont faire un spin-off, c'est-à-dire une série parallèle qui s'appelle Star City. Et on va voir plus détaillé tout ce qui se passe chez les Russes pendant la conquête, cette conquête supposée de la Lune et de l'espace. Je suis aux anges.
Je plus sois, ce sont des visionnaires, sauf que ce sont les Chinois qui vont s'installer sur la Lune à la place des Russes.
Oui, c'est vrai. C'est la fin de cet épisode 183 d'iWeek, la semaine Apple. Patreon.com/iWeek, c'est l'adresse, vous la connaissez, pour rejoindre la communauté. Et nous soutenir, on a besoin de chacune et chacun d'entre vous. Merci encore de votre fidélité. Merci Gilles Nounès.
Oh, c'est avec plaisir, Benjamin.
Grand plaisir d'avoir passé ce moment avec toi comme chaque semaine. Et merci aussi à toi, Fabrice Neumann.
Merci mon capitaine, plaisir partagé.
Bon, suivez-nous sur les réseaux, il y a une keynote à l'horizon, ça va forcément se mettre à bouger. Vous êtes nombreux à nous suivre sur Threads, sur Blue Sky, sur X, ex-Twitter ou sur Mastodon. Si vous voulez nous trouver, c'est iWeekNews ou iWeek.news avec le hashtag iWeekLSA pour que vos messages arrivent jusqu'à nous. Merci encore de votre présence, de votre amitié. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite pour la suite et bye bye à tous. Ciao.
Bye bye.
Bye bye.
Dans un instant, le bonus pour ceux qui restent.